Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Amour. Il y a tant de sortes d'amour qu'on ne sait à qui s'adresser pour le définir. On nomme hardiment amour à un caprice de quelques jours, une liaison sans attachement, un sentiment sans estime, de simagrée, de gigisbée, une froide habitude, une fantaisie romanesque, un goût suivi d'un prompt dégoût. On donne ce nom à mille chimères. Si quelques philosophes veulent examiner à fond cette matière peu philosophique, qu'ils méditent le banquet de Platon, dans lequel Socrate, amant honnête d'Alcibiade et d'Agathon, converse avec eux sur la métaphysique de l'amour. Lucrèce en parle plus sans physicien. Virgile suit les pas de Lucrèce. Amor omnibus idem. C'est l'étoffe de la nature que l'imagination a brodée. Veux-tu avoir une idée de l'amour? Vois les moineaux de ton jardin, vois tes pigeons, contemple le taureau qu'on amène à ta génisse. Regarde ce fier cheval qui de ses valets conduisent à la cavale, paisible qui l'attend et qui détourne sa queue pour le recevoir. Vois comme ses yeux étincellent, entends ses hennissements, contemple ses sauts, ses courbettes, ses oreilles dressées, cette bouche qui s'ouvre avec de petites convulsions, ses narines qui s'enflent, ce souffle enflammé qui en sort, ses crins qui se relèvent et qui flottent, ce mouvement impétueux dont il s'élance sur l'objet que la nature lui a destiné. Mais n'en sois point jaloux, et songe aux avantages de l'espèce humaine. Ils compensent en amour tout ce que la nature a donné aux animaux, force, beauté, légèreté, rapidité. Il y a même des animaux qui ne connaissent point la jouissance. Les poissons écaillés sont privés de cette douceur. La femelle jette sur la vase des millions d'œufs. Le mâle qui les rencontre passe sur eux et les féconde par sa semence sans se mettre en peine à quelle femelle ils appartiennent. La plupart des animaux qui s'accouplent ne goûtent de plaisir que par un seul sens. Et dès que cet appétit est satisfait, tout est éteint. Aucun animal, hors toi, ne connaît les embrassements. Tout ton corps est sensible. Tes lèvres surtout jouissent d'une volupté que rien ne lasse. Et ce plaisir n'appartient qu'à ton espèce. Enfin, tu peux, dans tous les temps, te livrer à l'amour, et les animaux n'ont qu'un temps marqué. Si tu réfléchis sur ces prééminences, tu diras avec le comte de Rochester, « L'amour, dans un pays d'athées, ferait adorer la divinité. » Et comme les hommes ont reçu le don de perfectionner tout ce que la nature leur accorde, ils ont perfectionné l'amour. La propreté, le soin de soi-même, en rendant la peau plus délicate, augmente le plaisir du tact, et l'attention sur sa santé rend les organes de volupté plus sensibles. Tous les autres sentiments entrent ensuite dans celui de l'amour, comme des métaux qui s'amalgament avec l'or. L'amitié, l'estime viennent au secours. Les talents du corps et de l'esprit sont encore de nouvelles chaînes. Non facit ipsa suis internum femina factis. Mont guerisque modis et mundo corpore cultu, ut facile insuescat secum vir degere vitam. Lucrèce, chant 4. On peut, sans être belle, être longtemps aimable. L'attention, le goût, les soins, la propreté, un esprit naturel, un air toujours affable donnent à la laideur les traits de la beauté. L'amour-propre surtout resserre tous ces liens. On s'applaudit de son choix et les illusions en foule sont les ornements de cet ouvrage dont la nature a posé les fondements. Voilà ce que tu as au-dessus des animaux. Mais si tu goûtes tant de plaisir qu'ils ignorent, que de chagrin aussi dont les bêtes n'ont point d'idée. Ce qu'il y a d'affreux pour toi, c'est que la nature a empoisonné dans les trois quarts de la terre les plaisirs de l'amour et les sources de la vie par une maladie épouvantable à laquelle l'homme seul est sujet et qui n'infecte que chez lui les organes de la génération. Il n'en est point de cette peste comme de tant d'autres maladies qui sont la suite de nos excès. Ce n'est pas la débauche qu'il a introduite dans le monde. Les frinées, les laïs, les florales, les messalines n'en furent point attaquées. Elle est née dans des îles où les hommes vivaient dans l'innocence, et de là, elle s'est répandue dans l'ancien monde. Si jamais on a pu accuser la nature de mépriser son ouvrage, de contredire son plan, d'agir contre ses vues, c'est dans ce fléau détestable qui a souillé la terre d'horreur et de turpitude. Est-ce là le meilleur des mondes possibles? Et quoi? Si César, Antoine, Octave n'ont point eu cette maladie, n'était-il pas possible qu'elle ne fît point mourir François Ier? Non, dit-on, les choses étaient ainsi ordonnées pour le mieux. Je le veux croire, mais cela est triste pour ceux à qui Rabelais a dédié son livre. Les philosophes érotiques ont souvent agité la question si Héloïse put encore aimer véritablement Abélard quand il fut moine et châtré. L'une de ses qualités faisait très grand tort à l'autre. Mais consolez-vous, Abélard, vous fûtes aimé. La racine de l'arbre coupé conserve encore un reste de sève. L'imagination aide le cœur. On se plaît encore à table, quoiqu'on n'y mange plus. Est-ce de l'amour? Est-ce un simple souvenir? Est-ce de l'amitié? C'est un je ne sais quoi composé de tout cela. C'est un sentiment confus qui ressemble aux passions fantastiques que les mots conservaient dans les Champs-Élysées. Les héros, qui pendant leur vie avaient brillé dans la course des chars, conduisaient après leur mort des chars imaginaires. Orphée croyait chanter encore. Héloïse vivait avec vous d'illusions et de suppléments. Elle vous caressait quelquefois avec d'autant plus de plaisir qu'ayant fait vœu au Paraclet de ne plus vous aimer, ses caresses en devenaient plus précieuses, comme plus coupables. Une femme ne peut guère se prendre de passion pour un eunuque, mais elle peut conserver sa passion pour son amant devenu eunuque, pourvu qu'il soit encore aimable. Il n'en est pas de même, mesdames, pour un amant qui a vieilli dans le service. L'extérieur ne subsiste plus. Les rides effraient. Les sourcils blanchis rebutent. Les dents perdues dégoûtent. Les infirmités éloignent. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'avoir la vertu d'être garde-malade et de supporter ce qu'on a aimé. C'est ensevelir un mort.